Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Trois chroniqueurs, trois films. Bernard Medioni, Dominique Borne, bonjour.
Bonjour.
Et bonjour à vous, Marie-Noëlle Tronchant, bonjour, qui souhaitait mentionner Vice Versa 2.
Oui, un peu plus que mentionner, parce que c'est un film d'animation Pixar assez phénoménal. Le premier, Vice Versa 1, en 2015, avait eu l'Oscar du meilleur film d'animation. Vice Versa 2 reprend le principe, c'est-à-dire personnifier les émotions fondamentales, joie, peur, colère, tristesse, dégoût. Mais cette fois-ci, la petite héroïne, Riley, a grandi et elle arrive à la puberté. Tout est bouleversé dans son petit monde intérieur qui devient un chantier chaotique avec l'arrivée de nouvelles émotions beaucoup plus complexes. Anxiété, envie, embarras, ennui. Riley quitte le monde de l'enfance pour affronter de nouveaux défis, intégrer le lycée et se faire admettre dans l'équipe de hockey.
Carrément.
Le scénario, oui. Le scénario utilise très astucieusement les troubles de l'adolescence comme ressort dramatique. Il y a des avalanches d'émotions, de dépression, des rages, de refoulement aussi. Mais les péripéties sont parfois un peu pléthoriques, il faut dire, et engorgent quelquefois la narration. En revanche, visuellement, c'est très réussi, parce qu'il y a vraiment tout le savoir et le talent, l'inventivité de Pixar, qui est un des grands studios d'animation. Et notamment les personnages d'ennui vautrés sur son canapé avec son smartphone et le personnage meneur d'anxiété qui est une sorte d'orange stressée, une espèce de petite chose montée sur ressort qui est tantôt au comble de l'excitation et tantôt dans la dépression totale, et sont très réussis et très amusants. Donc c'est un film qu'on peut voir en famille, c'est bien pour les vacances et rappelons que ça peut être bien aussi d'en profiter à la fête du cinéma qui a lieu du 30 juin au 3 juillet. Voilà.
Parfait.
Vice Versa 2. Et puis, ça peut donner lieu à des discussions en famille.
Oui,
parce que justement, sur
après,
les émotions,
bien
la psychologie, c'est tout
permet,
à fait
et ça permet d'en parler.
Voilà.
Alors, nous passons maintenant à Maria de Jessica Palud avec Anna-Maria Vartolomé, Matt Dillon et Yvan Attal. Alors, Maria n'est plus une enfant, pas encore une adulte. Lorsqu'elle enflamme la pellicule d'un film sulfureux devenu culte, c'est Le Dernier Tango à Paris. Elle accède rapidement à la célébrité, devient une actrice iconique sans être préparée ni à la gloire ni au scandale. C'est un film fort sur le prix que payent tant d'actrices pour exercer leur métier. C'est pudique, malgré le sujet qui est brutal, et c'est nécessaire, à mon sens, à l'époque post-MeToo. On écoute la bande-annonce.
Je voudrais être actrice.
Vous vous appelez comment ?
Maria. Maria Schneider.
Vous avez quel âge, Maria ?
19.
Vous seriez la deuxième tête d'affiche. Et puis Marlon Brando m'a dit oui.
Brando ?
Bernardo ? Monsieur Bertolucci ?
Il y a une scène très crue dont tout le monde parle.
Vous êtes allé loin ?
Comment vous avez fait pour l'aborder ?
Est-ce par surprise ?
On s'en fout de la vérité. Tout ce qu'on te demande, c'est de faire ton boulot d'actrice et rien d'autre.
Vous êtes une honte pour les femmes, mademoiselle.
Vous entendez ? Me regardez pas !
Qu'est-ce qu'il y a ? Tu voulais être actrice, tu voulais être connue.
Pas comme ça. M'habiller, je n'intéresse personne.
Accroche-toi. Je suis là.
Dominique Borne.
Oui, alors moi, je suis le seul parmi vous à avoir lu le livre de Vanessa Schneider, qui est la cousine. Qui était la cousine de Maria Schneider, et les journalistes, on la voit parfois à la télévision, et qui écrit, elle voulait écrire ce livre avec sa cousine. La cousine est morte en 2011, Maria Schneider, et donc le livre est paru après, et le film s'inspire du livre. Alors le film existerait-il s'il n'y avait pas le mouvement MeToo qui soutient les actes ?
Voilà.
Sans doute pas.
Oui.
Il n'y avait pas matière à faire un film avec ce livre qui est très beau, qui est très touchant, c'est une descente aux enfers, voir combien sa cousine a souffert de ce tournage, a été traumatisée, et en a voulu tout le temps jusqu'au metteur en scène et à Marlon Brando,
Bertolucci
et à Marlon Brando.
Beaucoup plus à Bertolucci qu'à
oui,
Marlon
beaucoup
Brando,
plus,
parce qu'ils ont continué de s'écrire.
Alors il y a la fameuse scène du beurre, bon, quand on a... qui a couvert les pages de tous les journaux à l'époque. Moi, je l'ai vu à l'époque, le film, quand il est sorti en 72. Il est certain que ça voulait scandaliser tout de même. Hein. Même si l'histoire est belle et déchirante, puisque c'est l'histoire d'un homme qui vient de perdre sa femme et qui va se jeter dans une aventure sexuelle pour oublier. Et il y a autre chose que Bertolucci avait dit à l'époque, qu'il avait retenu. On lui a demandé pourquoi il avait pris une actrice française parfaitement inconnue. Et il a dit parce qu'en Italie, il n'y a pas de jeune fille comme ça qui aurait pu se dévergonder comme ça. On n'en trouvait qu'en France. Mm-hmm. C'était pas faux. Mm-hmm. Et ça, donc, c'est intéressant parce qu'elle incarne cette jeunesse-là, qui est de ma génération d'ailleurs. Hein. Et en effet, de filles qui pouvaient se jeter dans des aventures absolument débridées. Donc le film, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est l'histoire de ce destin trop lumineux, si on, d'une certaine manière, enfin sous les projecteurs. Mais c'est sulfureux et c'est finalement tragique. Parce qu'elle, elle va devenir, ben après, elle va tourner, elle a beaucoup tourné d'ailleurs, elle a tourné avec Antonioni tout de même, elle avait tourné avant, elle a beaucoup tourné après tout de même, donc elle a été marquée par ça, elle a fait de la télévision aussi, mais il est certain qu'elle a sombré dans la drogue.
Elle va être fracassée.
Voilà, complètement fracassée, puis elle a fini par des relations saphiques, puisqu'elle était plus près des femmes que des hommes, elle en voulait aux hommes. Je l'ai rencontrée quand elle présidait un film de femmes, elle était déjà très marquée, c'était quelques années avant sa mort. Elle était très... on la sentait blessée. La sentait blessée et très retirée du monde, comme ça. Alors, le film, maintenant, bon, Anna Maria Bartolomei, qu'on va voir qu'on verra la semaine prochaine dans Monte Cristo, d'ailleurs, lui ressemble lointainement. C'est pas vraiment ça. Quant à Ivan Attal, il est très loin de Daniel Vélin, que j'ai connu aussi, qui n'avait rien à voir avec Ivan Attal, vraiment. Puisque c'était son... Elle était l'enfant naturel de Daniel Vélin. Il l'avait eu et sa femme de l'époque avait refusé qu'il la reconnaisse. Il l'a reconnu un peu avant le dernier tango. Voilà pour les informations. Matt Dillon, en revanche, avec des prothèses, ressemble vraiment au Marlon Brando du film. C'est assez étonnant là-dessus. Mais ce n'est pas l'essentiel. Le film veut raconter un viol, la fameuse scène du beurre qu'on voit dans le film, bon, qui est assez édulcorée tout de même, et un traumatisme. Une jeune actrice marquée au fer rouge. Peu d'autres choses, finalement, la douleur sur un visage d'adolescente. Hein, et quelque chose qui choque encore plus aujourd'hui, alors qu'en 72, le film a choqué, mais pas à ce point-là. Mais aujourd'hui, vu la mode MeToo, si on peut dire, ça, maintenant, sur les plateaux...
De voir l'enfer du décor, je l'ai fait.
Voilà, c'est l'enfer du décor. Et il est certain que maintenant, sur les tournages, on impose une... Il y a une inspection, il y a quelqu'un là qui surveille que l'actrice ne subit pas de violation ou de violence, quelle qu'elle soit. Donc, le film correspond à ça. Pour le reste, il n'y a pas grand-chose d'autre tout de même, mais il y a cette douleur, oui, cette douleur, cette tristesse et cette défiance qu'elle va vivre. Alors, il faut le voir comme un hommage à une actrice disparue et une revendication féministe. On a le choix entre les deux.
On peut prendre les deux aussi. Ouais. Bernard Medioni.
Oui, je suis globalement d'accord avec ce qu'a dit Dominique. C'est l'interprétation qui tire son épingle du jeu, qui est nuancée et inspirée, et qui prend le haut du pavé. Et puis, c'est un film qui provoque quelques chocs en exhumant les mécanismes et les mentalités d'une époque.
Mais avec beaucoup de pudeur.
Oui, c'est vrai.
Attendez.
C'est vrai. Alors, le film, comme l'a rappelé Dominique, est sorti en décembre 72. C'était l'année où Orange Mécanique est sorti en France. Et c'est un double triomphe de scandale. Hein. Mmh. C'est plusieurs millions d'entrées. En France, le dernier tango à Paris. En Italie, bon, le film a été interdit assez rapidement, mais ça a été quand même, en France, ça a été un succès considérable. Et c'est justement la reconstitution du tournage du dernier tango à Paris qui s'avère réussi. On en voudrait presque un petit peu plus. Et c'est d'autant plus réussi que ça met en évidence les intentions, mais aussi la rouerie de son metteur en scène, Bernardo Bertolucci, qui est vraiment présenté sous un jour très sombre. Ah, mais oui! Manipulateur, menteur, égoïste. Et puis après, quand elle a l'air de se plaindre, il la repousse et en gros, il lui dit « Mais c'est ton métier, fais ton métier !» Alors que ça va quand même au-delà. Et puis ça dépeint, même Dominique l'a dit, de manière convaincante et éloquente, la descente aux enfers de cette femme. Alors, qui n'est pas abusé, hein, quand même. Ça reste du cinéma, mais c'est simulé de manière tellement réaliste alors qu'elle n'est pas prévenue, que ça va la traumatiser. Elle est meurtrie par cette scène. Mais il n'y a pas, ce n'est pas un viol. Hein, il faut quand même le dire pour qu'il n'y ait pas de confusion. Alors maintenant, la réalisation peine quand même à emporter l'adhésion parce que cette réalisation manque d'audace et beaucoup de conviction et d'ambition. À part Matt Dillon, et je suis une fois d'accord avec Dominique, encore d'accord avec Dominique, aucun des comédiens rassemblés ne ressemble à leur modèle. Ni l'interprète principal, ni Yvon Attal, ni tous les autres. Et ça, on aurait dit, est-ce qu'ils n'auraient pas pu faire...
Ça ne m'a pas dérangé, moi.
Et l'actrice principale semble échapper d'un biographie sur Isabelle Adjani. Alors, sur la fin, je crois que l'ensemble est frappante que sur un film sur Maria Schneider, ça manque aussi cruellement de dates et de repères. Quand elle tourne dans un film de vampire, en fait, le film s'appelle Mama Dracula, on se garde bien de le préciser, le film où on la demande de se déshabiller et on dit André, on sait pas ce que c'est. Donc ça, c'est vraiment, les experts s'y reconnaîtront, mais sinon, c'est des clins d'œil pas clairs et des allusions éphémères. Et puis, ça jette un voile pudique sur le devenir de cette mère tyrannique et cyclotimique, fort bien jouée d'ailleurs par Marie Gillin, en blonde, assez méconnaissable, et on aurait aimé savoir ce qu'elle devient, cette mère qui a sans doute eu un rôle si important. Et puis la conclusion, quand même, se limite à une pirouette finale. Cette œuvre révèle qu'un metteur en scène, pour exercer son emprise sur une vedette américaine immense, a oublié la fragilité de son actrice principale. En d'autres termes, il harponne Brando parce qu'il a omis Schneider.
Nous passons à Hors du Temps, Olivier Assayas avec Vincent McCain, Michel Esco et Nora Amsaoui. Alors c'est le confinement comme on l'a connu, cette fois-ci le confinement à la campagne, dans la maison de leur enfance, il y a deux frères, leur nouvelle compagne, beaucoup de mélancolie, mais du rire, de la joyeuse moquerie, et en y repensant, ça n'a vraiment pas été une période facile.
Non.
On écoute la bande-annonce.
Même à la campagne.
D'habitude, il y a toujours des avions, des voitures dans le lointain. Là, rien.
C'est quand même une situation assez étrange, hein, d'être confiné là où on a grandi.
C'est quoi ?
C'est mes chaussettes.
L'été arrive et t'as besoin de chaussettes ?
Tout à fait. Trop de souvenirs, trop de passé.
Que vous partagez avec votre frère ?
Oui.
C'est marrant, avec Paul, vous avez l'impression d'être ensemble depuis toujours.
Je te dérange une seconde, pardon, excuse-moi.
Oui.
Tu veux des choux raves ?
Non, ça va.
T'as eu le temps de passer à la boulangerie ?
Je suis pas psychologiquement prêt pour la boulangerie.
C'est ce qui me semblait. Je me suis dit que c'était un peu dur quand même, la boulangerie, d'un coup.
Essaye d'être patient avec ton frère.
L'autre jour, tu as passé toutes les poignées de porte à l'eau de Javel, diluées.
Mais je suis patient.
Tu prends sur toi.
J'en ai marre de subir tes angoisses ! Merde !
L'enfance passée à la campagne.
Ras-le-bol !
Crée des liens.
Toute une vie vécue indépendamment, tu ne penses pas que ça fait de vous aussi un peu des étrangers ?
Bon, hier soir, Carole et moi, on a dû mettre des boules qui est.
Hier soir, on a regardé un film muet.
Je sais pas, c'est que la musique était trop forte.
Il y a une telle pression à être dans le cours du monde que le fait que tout s'arrête. À une puissance libératrice.
La semaine prochaine.
Oui. Même arbre, même heure.
Il est placide comme Droupi, je trouve ça merveilleux.
Oui. Et ben c'est les joies et les heures du confinement. Oui, ça, c'est assez bien montré. Ça fait 3 ans, tout de même.
Oui.
Voilà.
Quatre.
Et on est toujours... Comme le temps passe.
Et on est toujours aussi blessé.
Le temps passe, oui. Mais il passe lentement dans le film, tout de même. Bon. Voilà, le reste, ça stigmatise les attitudes du quotidien, les petites fausses, les manies. Deux couples à la campagne qui s'ennuient ou qui occupent leur ennui. Et Vincent McCain, qui est l'acteur préféré de Bernard, faut qu'on peut le signaler. Hein. Il aime beaucoup Vincent McCain, qui est de tous les plans, de toutes les scènes. Moi, j'aime bien Vincent McCain. Et là, on le voit nettoyer une casserole, jouer au tennis, raboter une porte, se balader avec sa compagne.
Mais j'aime ce côté placide.
Oui, il est très placide.
Oui.
Voilà. Il a l'air de s'ennuyer, nous aussi, d'ailleurs, dans la campagne apaisante. Et on a même droit à des réflexions d'une profondeur abyssale. Moi, j'ai bien réfléchi sur la phrase. C'est la campagne, ça crée des liens. La ville aussi. hein, faut le signaler à Sayas. Non, je veux bien voir ce qu'il a voulu. C'est un film intime. Il a raconté son confinement.
Mais il y a du second degré, tout le temps.
Ah oui, t'as trouvé, moi. Ah, oui. J'ai vu du premier degré, c'est ennuyeux. Mais
ah non,
j'ai
pas j'ai été jusqu'au second degré.
Je me suis arrêté juste avant le second degré.
Tu ah oui, moi ça m'a fait rire.
Ah oui, il y a des choses drôles, oui, mais enfin. Quand on prend conscience de la malédiction du confinement, on réapprend la vie simple. La vie, puis la maison est très, très jolie, et le jardin aussi, il est très grand, le jardin, d'ailleurs. Voilà. Mais à part ça, je l'ai bien aimé à la fin la chanson de Brassens. Puis comme c'était la fin, j'ai d'autant plus apprécié.
D'accord. Marie-Noël.
Oui, moi j'ai trouvé que ça avait du charme, que c'était très original. C'est une singularité, évidemment, puisque ça se présente comme une forme de journal intime. Et par principe, le journal intime raconte une histoire particulière et
rien. Un journal intime ne raconte rien.
Ne raconte rien que le temps qui passe. Et le temps qui a déjà passé, puisque ces deux frères se retrouvent dans leur maison d'enfance.
Absolument.
Et ce parc, donc il y a cette surimpression de présent et de passé, d'enfance, qui est, je trouve, très bien rendu au début, très évocateur, le récit un peu off qui ouvre le film comme, un peu comme les grilles d'un parc, un peu verlainien, ayant poussé la porte étroite, Guignola, sauf que le jardin est plus vaste, c'est un parc. Mais on entre dans ce passé, et puis s'installe un tandem de frères burlesques, mais vraiment cocasses, parce que ils sont complètement antagonistes, mais avec plaisir. Ben si, il y a le personnage du cinéaste Paul, qui est un anxieux, névrotique, frénétique, obsédé, alors évidemment par le virus, les microbes, l'hygiène, il repousse les choses à 3 km de lui, il faut que ça décante dès qu'il a rencontré quelqu'un, il est complètement... Et puis, son frère... qui est dans la réalité Mishka Assayas, chroniqueur musical bien connu, et qui lui est très flegmatique, mais plutôt écolo, décroissant, qui chambre, c'est le cas de le dire, son frère constamment. Parce que il dépense un argent fou sur Amazon au lieu de prendre prétexte de ce temps désert et particulier pour justement ne rien acheter, ne rien consommer moins. Et donc ils sont dans cet antagonisme perpétuel comme chien et chat. Il y a aussi de vieilles blessures d'enfance et la figure des, j'allais dire presque les fantômes des parents aussi. Ça a un côté un peu russe, un peu un Tourguenieff, un Tchekhov pourrait traîner comme ça dans le... Oui,
il y a une bonne idée du scénario, c'est que les deux compagnes sont nouvelles.
Oui.
C'est-à-dire que ce n'est pas d'histoire ancienne. Donc elles arrivent avec...
Et elles commentent. Et elles essaient d'intégrer, d'aplanir, de comprendre.
Et ça, c'est une très bonne idée.
Oui. Donc, en fait, c'est très riche à la fois psychologiquement c'est singulier et c'est très burlesque. Et le tandem comique fonctionne très bien entre les deux frères.
Oui, alors je suis navré parce que moi je n'ai pas vu le même film. Alors peut-être étais-je à une autre séance ou non, moi le burlesque je ne l'ai pas vu du tout. On est quand même très loin de Laurel et Hardy. L'aspect russe, il y a sûrement, mais j'ai surtout vu l'aspect rustre du film. Alors maintenant, il y a un éloge de la nature et de la culture. Alors illustré par les Hittites, par Villon, par Vuillard, Bonnard, Monet, Georges Brassens, les Stranglers, Héloïse et Abélard, Renoir, Flaubert, Sartre, Gustave Le Rouge, l'auteur du mystérieux docteur Cornelius, moi qui m'est cher. Tout ça, ça ne manque pas d'allure, c'est vrai. Il y a des interventions explicatives qui sont assurées par le réalisateur lui-même, qui bénéficient d'une écriture. Alors, ces interventions-là, beaucoup plus que les dialogues eux-mêmes, et cette écriture a beaucoup de pudeur, de l'élégance et de la rigueur. Et ce long métrage, et je crois que Dominique l'a dit, possède une indéniable authenticité, grâce à sa sa méticulosité et son expressivité.
Et ben voilà, on s'arrête là.
Non,
ben, malheureusement, ça fait
Bernard.
Court, parce qu'englué dans ses souvenirs et ses références alanguies, ce spectacle se caractérise par une fâcheuse inertie au bord de l'ennui.
Mais c'est Oblomovien.
Oui.
Ils
oui,
sont mais... sur leur canapé.
Oui, sauf que c'est sans doute plus intéressant pour Oblomov que dans le cas d'Oblomov qu'ici, parce que les enjeux ici, on se moque, excusez-moi, qu'ils ne s'entendent pas avec son frère, que lui soit névrosé, que son frère travaille sur France Culture.
Ça ressemble à la comédie.
Ben, sauf que ce n'est pas drôle, c'est très embêtant, ou alors c'est très...
Mais si, c'est drôle.
Ah, et c'est très intellectualisant. Quel snobisme du début
à la fin. Mais ils se sont des bobos intello.
Ah oui, mais alors...
Comme tel, et ils se moquent d'eux comme tel.
Je ne suis pas sûr qu'ils se moquent d'eux. La voix du narrateur, qui est à Olivia Assayas, c'est gravement soporifique en plus. Et puis ces personnages, avec leur veine des dissensions, leur névrose, leur tergiversation, suscitent une franche exaspération. Et puis cet épilogue tire en longueur, comme s'il cherchait quelque grandeur qu'il n'arrive pas
à... On n'a pas vu le même film du tout.
Ah non, mais je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai dit en entrée de jeu. Et cet épilogue ne trouve pas la grandeur. Et puis, tout de même, ce réalisme, mais ici, ce gargarisme de snobisme, je dirais qu'une pareille production additionne les références. Nul ne s'étonnera qu'hors du temps procède à un amas chronique.
Moi, j'aime beaucoup Tchekhov, mais vraiment, je n'ai pas pensé beaucoup à Tchekhov.
Alors,
oui, Tourguenieff. Mais...
Je vous signale que vous avez 4 minutes pour me parler
de
Kreider.
Et oui, nous sommes à Chicago en 1968, je crois, dans un bar de la ville.
63.
63, merci. Une jeune femme qui croise Benny, qui vient d'intégrer la bande de motards des Vandals, et qui tombe naturellement sous le charme à l'image du pays tout entier. Le gang dirigé par l'énigmatique Johnny évolue peu à peu. Alors que les motards accueillaient tous ceux qui avaient du mal à trouver leur place dans la société, les Vandals deviennent une bande de voyous sans vergogne. Penny devra choisir entre Cathy et sa loyauté envers le gang. Et c'est plutôt de l'amour de la moto. Il passe à la drogue et les armes à feu et la violence.
Oui, c'est...
Je pense fonder un club de balade. Pourquoi ? Tout ce que ces clubs font, c'est se réunir pour parler de leur bécane.
C'est ce qu'on fait aussi.
On a des liens avec personne, alors le club, c'est un lien entre nous.
Et c'est toi le président ?
Je m'appelle Johnny. On est les Vandals.
Moi, c'est Benny.
Je vous aime bien.
Voilà, vous avez une minute chacun.
Oui, une minute chacun. Ben, c'est l'univers des motards. En fait, bien sûr, on pense à l'équipe sauvage de Laszlo Benedek, hein, de 53. Là, ça se passe 10 ans plus tard. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est, au départ, c'est un groupe qui devient une tribu. Une famille, et racontée par une fille amoureuse d'un des bikers. Hein. Et c'est elle qui raconte le film, qui est pas mal fait d'ailleurs là-dessus. Et c'est une équipée qui est faite de violence et de vrombissement de moteur et de vitesse, et puis petit à petit ça devient autre chose. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça devient un gang et ça devient un gang criminel finalement.
Ouais, ouais.
Et à la fin, ce sont des criminels, ils tuent et c'est plus du tout la même chose. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution, une évolution qui correspond à l'évolution de la société aussi. Et c'est là-dessus que le film est assez fort finalement. Le clan devient un gang criminel qui vit de drogue et de prostitution. Voilà, signe des temps, oui. Le film le montre assez bien, il est impressionnant et plutôt bien fait. Oui.
Marie-Noël ?
Oui, je suis tout à fait d'accord sur cette évolution très intéressante, sauf que les personnages attachants s'en vont
fuit, oui.
Lorsque le gang tourne à la criminalité
la fille,
et à la violence.
Qui pousse à s'en aller,
oui, oui, donc c'est, ça évolue, mais eux s'en vont, parce qu'ils ont une intégrité. Une honnêteté morale, ce sont plutôt des personnages classiques du cinéma américain au départ. Épris de liberté, le jeune, c'est un moment de jeunesse. Épris de liberté, mais aussi avec de solides traditions ancrées dans la famille. Et puis l'amour, l'amitié compte beaucoup. C'est une romance amoureuse très jolie, il faut dire.
Mmh.
Et puis la mise en scène est très aboutie parce qu'elle capte l'innocence à la fois de la jeunesse et d'une certaine façon de cette époque, de
Merci.
Ce moment.
Bernard, moi ce que je trouve le plus réussi, c'est la dernière partie qui est empreinte à la fois de violence et de nostalgie. Il y a une bande originale formidable, les musiques des années 60 ici, mises bout à bout, mais ça donne un ton au film. Et puis quelqu'un l'a dit, ça glisse de l'insouciance aux alarmes portées par les stupéfiants et les armes. Et ça, c'est très bien montré. Et il y a trois personnages qui tiennent debout, la narratrice, son mari et Johnny, interprété par Tom Hardy. Maintenant, ça met du temps à démarrer. C'est sage sur le plan esthétique, contrairement à l'équipé sauvage ou aux anges sauvages de Roger Corman. Il ne se passe quand même pas grand-chose. Et il manque peut-être une ou deux scènes.
Donc pour finir,
choc le choc. Ça nous invite peut-être à la grande évasion et ça nous encourage à prendre nos crics et nos casques.
Merci à tous les trois. À la semaine prochaine. Alors, merci à tous les trois. Bernard Médiodi, Dominique Baum et Marie-Noëlle Tranchant. La semaine prochaine, avant le feuilleton estival autour de Patrice Lecomte, nous nous retrouverons pour un spécial Comte de Monte-Cristo, l'événement de ce début d'été. Merci à Cédric Cobat pour la réalisation, François Dieudonné, Philippe Malpeuch, Camille Meyer et Faustine Cléry pour la réussite technique de notre rendez-vous. Demain jeudi, Jean-François Roth vous donnera tous les conseils de lecture spirituelle pour les vacances. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Je vous embrasse. Yes.